Jardin d'Isis, une émission réalisée sur Radio FM+, chaque jeudi à 13h15 et 19h15, avec Yann Kerjouan à la technique. Je reçois aujourd'hui Jean-Louis Kerengeven, poète. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour.
Alors j'ai eu le plaisir de recevoir et de lire vos trois derniers recueils de poésie qui ont été publiés depuis 2020. Pendant cette période de confinement, on aura peut-être l'occasion d'en parler un petit peu plus tard. Le premier recueil que j'ai lu et qui a été publié, c'est La Grande Eau Verte du Poème, publié à l'Harmattan, collection poète des cinq continents. Alors, quelques mots sur Jean-Louis. Jean-Louis Kerengeven, poète d'origine bretonne et d'adoption montpelliéraine, a coutume de dire qu'il s'est trouvé déposé en terre occitane par une marée d'équinoxe au coefficient imprévu. Tirant derrière lui ses filets d'exil, il a publié dans diverses revues ainsi qu'une quinzaine d'ouvrages dont certains ont été récompensés. Je me souviens du prix du Beffroi, entre autres. Obsédé par la quête du mot exact qu'il doit à l'influence guillevicienne et des poètes chinois, il se réfugie souvent sur la canopée pour compter les vagues, celles de l'océan comme celles de la Grande Bleue. Alors j'ai eu la surprise de découvrir justement une édition franco-occitane. Est-ce que vous pouvez me dire quelques mots autour de cette idée, comment elle a émergé ?
Oui, c'était finalement pour rendre hommage à la terre occitane qui m'a accueilli, car je suis comme d'autres un migrant et donc je voulais rendre hommage à cette mer méditerranée que les Bretons parfois négligent un peu. Donc j'ai eu l'idée de proposer un ensemble de textes qui traitent de la mer, de la mer avec un grand thème, qu'elle soit atlantique ou méditerranéenne. Donc pour moi, ce recueil bilingue, c'est une façon un petit peu de comme un éloge de toutes les mers qui ont généré chez moi le poème, à la fois le poème à la fois de l'angoisse du départ et du non-retour, mais aussi de la fascination du mouvement perpétuel qu'on peut effectivement recueillir auprès de l'Atlantique. Hein. Et donc ce recueil, c'est un peu grâce à la traduction de Jean-Claude Fauré, qui est un spécialiste de la langue occitane, un hommage à la terre occitane donc, qui m'a accueilli et qui m'a permis une approche poétique de l'autre mer, entre guillemets.
Dans la forme du recueil, le vers est bref. Et ceci depuis que je vous lis une forme très brève, concise, une poésie. Alors, je sais que c'est la forme que vous affectionnez, c'est même pour vous essentiel. Dans cette forme, les images jaillissent. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le choix de cette forme épurée ?
Oui, j'ai éliminé tout bavardage en matière d'écriture poétique. Je pense que je suis un petit peu obsédé par la recherche du mot exact. Sans fioriture, de façon à ce que je puisse exprimer un maximum d'émotions avec un minimum de mots. Donc c'est un peu ma démarche. Et donc j'ai subi, là, c'est vrai, l'influence d'écrivains comme Guillevic et surtout des poètes chinois, qu'ils soient chinois et même japonais.
Alors, tel que vous le disiez, la mer est inspiratrice de votre poésie. Vous écrivez dans le poème qui introduit la lecture. Et vous allez nous l'offrir, peut-être même en occitan.
Voilà, donc je ne suis pas un spécialiste de l'occitan, mais je vais essayer de vous donner les deux versions. D'abord, la version classique, hein, qui introduit ce recueil. Toujours la mer te semble absente. Jamais sans elle ne s'emplit la grande eau verte du poème. Toujours la mer te sembla absente. Chamay sense la non semplena la grande aiga verda del poema.
Vous êtes ballotté d'une mer à un océan. On a parfois une impression de tiraillement, presque une lutte entre deux horizons qui s'affrontent dans le cœur du poète. Nous allons l'entendre dans les deux poèmes qui suivent, où la lecture alterne entre les oliviers, le mistral et la mer d'Iroise.
Le mistral met de l'écume aux lèvres bleues des oliviers et tente de négocier la reddition des vagues de l'Iroise où je suis enchaîné. Et puis un autre poème. Je succède au fardeau claudiquant du vent chargé d'exil, avec des ailes bleues libellules pour le portant de l'ombre.
Vous dites d'ailleurs, de l'autre mer, comment rompre le bail? Et c'est un vers que j'ai retrouvé dans plusieurs recueils. Un tiraillement, donc, entre chansons méditerranéennes et goélandes océanes. J'ai entendu les flots d'Iroise qui pulsent.
Oui, la mer d'Iroise est quand même assez présente. Mais j'ai voulu rompre un petit peu cette espèce d'ostracisme que beaucoup de gens qui habitent dans les régions de l'Ouest se laissent piéger par cet ostracisme. En fait, quand on demande à quelqu'un qui habite les côtes de l'Ouest d'imaginer une mer sans marée, en perpétuel mouvement, c'est très difficile. Moi, j'ai failli me faire piéger et je me suis aperçu que la mer Méditerranée valait bien l'Atlantique, même s'il n'y avait pas de marée, même s'il n'y avait pas de coefficient. Et c'est un petit peu ce que j'ai voulu montrer. J'ai voulu montrer que quand on était habité par un amour de la mer, on ne s'occupait pas des frontières et on pouvait chanter la mer sous tous ses angles. C'est ce que j'ai essayé de faire.
D'autant qu'elle est universelle, elle communique quand même en général d'une mer à l'autre. Alors, ce qui m'a plu aussi dans vos recueils en général, hein, c'est la présence des oiseaux qui survolent les lignes, les fous de bassin, les cormorans, les mouettes, les grues, les bécassines. Un peu plus loin, dans un poème, le mot devient mouette. Ça aussi, je l'ai retrouvé par plusieurs endroits. Alors, je pense qu'il faut entendre cela, vous interroger la page autour du mot, du sillon d'écriture, de la trace.
Oui, alors, c'est ce que je pense de plus en plus, c'est que j'ai une poésie tellement épurée, tellement courte, dans sa graphie, que cette poésie gagne plutôt à être lue avec les yeux pour bénéficier de ces repères typographiques, de ces dispositions typographiques qui ne sont pas perceptibles quand on lit avec la voix. Donc, il n'y a qu'une solution, c'est de se procurer les recueils pour justement pouvoir apprécier la disposition graphique. Il y a des césures qui surprennent et qui sont faites pour surprendre le lecteur. Et cette surprise ne peut pas être vraiment rendue comme elle devrait l'être, par justement cette disposition qui est un petit peu spécifique de mon écriture.
En ce qui me concerne, j'ai ressenti la mélancolie, une pudique nostalgie. Le timbre de l'occitan se prête-t-il à la mélancolie lorsqu'on ne comprend pas l'occitan, qu'on entend juste le chant de la langue?
C'est vrai que la tonalité générale de la langue occitane prête davantage à la mélancolie, à la nostalgie, alors que la langue bretonne, par exemple, avec son accent tonique extrêmement soutenu, fait penser un petit peu à cette nature très très rugueuse, à ces rochers, à ces vagues, à ces mouvements. Et c'est vrai que la tonalité générale de la langue occitane prête davantage à ça.
Oui, cette mélancolie est tempérée par « mais rassurant le bruit de la mer ». Nous allons écouter ce poème.
Dans le lointain, notre écume atomisée au-dessus des brisants, rassurant le bruit de la mer. Et puis un autre texte qui exprime bien l'angoisse que les gens des côtes atlantiques nourrissent, parce que je dis toujours en plaisantant, il y a deux choses que les Celtes et les Bretons craignent, c'est que premièrement que le ciel leur tombe sur la tête, et puis deuxièmement, ils ont très peur que la marée qui s'en va ne revienne plus. Et j'ai essayé en quelques mots d'exprimer ça. Être sûr que la mer s'en retourne à la mer. Et ser seguro que la mar s'en torna a la mar.
En ce qui concerne le vocabulaire, j'ai été impressionnée par la richesse de votre vocabulaire. Tant en ce qui concerne le vocabulaire maritime, qui est foisonnant, on découvre le radoub, les élingues. J'ai beaucoup appris en vous lisant, je dois le dire. Est-ce qu'il y avait des marins dans votre famille, Jean-Louis?
Oui, il y avait un marin qui a failli être amiral. Et... Donc, que j'ai pas connu, hélas, mais je pense que j'ai été élevé dans le souvenir de ce personnage-là. Et quand on est adolescent et qu'on cherche des modèles, j'ai nourri un petit peu ce modèle un peu fantasmé, hein, que j'avais pas connu vraiment de façon réelle, mais qui m'a servi certainement à nourrir mon inspiration maritime.
J'ai à peu près la même question concernant l'Irlande qui revient régulièrement dans les paysages de vos poèmes.
Oui, ça, l'Irlande, c'est un élément incontournable. Et c'est une espèce de renaissance pour moi. J'ai découvert que je pouvais certainement avoir des racines... peut-être pas irlandaise, mais celte certainement. Et par exemple, je viens de découvrir un site breton qui portait mon nom. Et sur le territoire de la commune, il y avait un menhir extraordinaire. Et donc, j'ai pu un peu ressourcer mon énergie avec ce menhir qui d'ailleurs avait été relevé par la population il y a une trentaine ou une quarantaine d'années.
Donc j'ai découvert au fil des lectures tout un champ lexical foisonnant autour des oiseaux, des algues, les fucus, des termes de navigation, d'instruments de musique, le baudran, que je ne connaissais pas, des cromlechs, alors donc les pierres dressées, disposées en cercle, la grande troménie, nous sommes en Bretagne au sein des traditions, et sur les dernières pages survient la question lancinante de la mort et son cortège de voiles noires, d'obsidienne. Vous me disiez que c'était une introduction à toute une civilisation de l'Ouest, finalement, ces cromlechs, cette grande troménie, ce baudran.
Oui, je vais essayer de retrouver le texte en question. Mais bon. Ah, il y a un poème là que j'aime bien parce que finalement, il pose la question de savoir si. Pour résoudre tous nos problèmes et pour oublier que nous sommes mortels, est-ce qu'aimer la mer aura été suffisant pour gérer ça? Alors, j'ai traduit ça dans un poème. Jusqu'à l'onction des terres, où la moiteur expire, en sa paume, il versa la lumière qu'il avait dérobée le matin à la grève. Avoir aimé la mer serait-il suffisant? Alors, il y en a un autre que je voulais vous lire. Roche échevelée sous lesquelles, avec soin, tu vas cacher tes larmes. Déjà, les oiseaux de mer offrent un cromlech de plumes à ce chagrin immarcessible. Repartir cependant, même sous gréement de fortune.
Abordons avec Jean-Louis Kerengeven maintenant le recueil Brisure, paru aux éditions des Deux Rues en mai 2020. Ce qu'il faut de brisure pour accéder au poème, ce qu'il faut d'humilité ou de modestie. Le recueil s'introduit dans une ambiance d'arbres, de villages, de canopées, mais le chêne tire de bord et on retrouve le chant lexical de la mer. Toujours la mer, j'ai envie de dire. Les embruns portent la prose. Il y a aussi certains poèmes qui constituent des petits morceaux de vie. Nous allons entrer dans l'univers de ces petits morceaux de vie.
Voilà, donc j'ai voulu ponctuer ces petits morceaux de vie et ces petites fenêtres qui partent d'un événement très banal. Pour finalement se poser des questions un peu existentielles à chaque fois. Donc, mon but, c'est de partir de quelque chose de très banal et de pouvoir élever la réflexion, la discussion à partir de cet événement qui est tout à fait commun et qui pourrait s'arrêter là. Moi, mon but, c'est d'essayer de provoquer cette réflexion à partir justement de quelque chose qui, finalement, ne mérite pas, à première vue, une grande exploitation. Par exemple, le nuage qui demandait sa route à l'éolienne est parti sans m'attendre. J'ai pactisé avec le lierre. Il embrassait trop mon arbre. Ton étreinte, un peu desserrée, contre ma paume ensanglantée. Dans le chaudron patrimonial cuit la confiture de mûre. À chaque tour qu'elle concède, la cuillère de bois suggère une autre voie. Et là, un poème qui pose le problème du vieillissement et qui souligne quand même la condition de mortel que nous sommes. Il reste un peu de vie aux extrémités du grand chêne, mais la membrure est désarmée. Bientôt, ils claqueront des haubans noirs. Je me surprends à surveiller le fourmillement de mes doigts.
Cette mer revêt des contours menaçants, puisque la mer revient. Est-ce que vous pouvez nous parler des brisures et évoquer éventuellement les différentes phases de votre créativité poétique, telle que vous le concevez comme un échange autour de l'art?
Voilà, c'est vrai que pour accéder à la création poétique, on s'aperçoit que, enfin, en ce qui me concerne en tout cas, on s'aperçoit qu'il faut faire beaucoup de sacrifices, alors que ce soit des sacrifices graphiques, simplement, quel mot vais-je mettre à la place de quel autre, et qu'est-ce qu'il va falloir que j'abandonne comme élément affectif pour finalement offrir au lecteur un poème qui soit construit et qui ne soit pas divergent. Donc je considère qu'il faut quand même faire des concessions perpétuelles pour arriver à l'acte créatif.
Beaucoup de rigueur.
Par exemple, là, quand le vent aura pu minéraliser toutes nos rébellions et qu'ainsi nous serons devenus menhirs, peut-être alors lèvera-t-il le poème au bout de nos phalanges vertes. Tailler, retailler son graphite jusqu'à l'os, sans jamais éteindre la moelle.
Et comme vous convoquez régulièrement le vent, nous allons écouter de Sibelius l'ouverture de l'opéra La Tempête. Découvrons maintenant le troisième recueil de poèmes écrit par Jean-Louis Kerengeven. Le titre « À l'estime ». L'estime est l'art de tracer sa route sans l'aide d'instruments électroniques et donc dépendante de l'appréciation personnelle. D'emblée, le poème à l'introduction du recueil, évoque des paysages, des ambiances de village, de clocher. Il y a des personnages parfois dans le village. On évoque les souvenirs, le jardin, les objets. Telle une canette bousculée par le vent qu'on entend. On l'entend, cette canette. Cette poésie habitée de personnages qui étaient moins visibles dans les précédents recueils. Ce sont également des parcours à travers la vie de tous les jours avec des retours sur questions fondamentales, des petites fenêtres de vie.
Oui, j'ai voulu un petit peu comme le recueil précédent, mais de façon quand même un peu plus, centrée sur la vie et sur les personnages. J'ai voulu marquer chaque événement. Ou chaque nature de personnage, j'ai voulu marquer d'une création poétique, même si j'évoque parfois une certaine solitude, une certaine nostalgie ou même une certaine mélancolie. Par exemple, celui-ci, le clocher dominical distribuera aux agnostiques sa pleine volée de bois vert. Et les petits vieux près du téléphone feront durer leur verre de muscat. Un autre fait divers tout à fait banal. Poussée par le vent du nord, une boîte de bière vide joue du tam-tam au caniveau des souvenirs. Il chasse de nos lendemains une rumeur de tabac froid.
Il y a des poèmes aussi qui explorent la douleur et les incertitudes du poète. Une question qui s'était posée à moi, vous écrivez « Une nuit sur la grève, j'ai voulu enterrer tous les livres ». On est au cœur de l'incertitude, Jean-Louis.
Voilà, je lis le poème et j'en dirai deux mots après. « Une nuit sur la grève ». J'ai voulu enterrer tous les livres. La mer est revenue. De nouveau, c'est perdu. Coquelicot sur parchemin, jaillissant des galets. Donc en fait, ce que j'ai voulu exprimer dans ce court poème, c'est une espèce de désespoir. Est-ce que la poésie va suffire à sauver notre désespoir de mourant, chassé du paradis. Donc c'est tout ce que j'ai voulu dire là-dedans. Et alors avec ce mouvement perpétuel de la mer qui revient, chose que peut-être qu'en Méditerranée on éprouve moins qu'ailleurs, moins que dans l'Atlantique. Donc vous voyez cette quête-là d'une certaine vérité à travers des éléments naturels, ça m'obsède toujours autant, quel que soit le recueil.
Alors ces recueils, où est-ce qu'on peut se les procurer, Jean-Louis? C'est le moment de
voilà.
d'en parler.
Donc je voudrais juste saluer l'éditeur courageux qui s'appelle Daniel Brivet et qui a fondé ces éditions des Deux Rues, parce que publier trois recueils en pleine pandémie, il fallait quand même le faire et avoir du courage. Donc ces recueils, on peut se les procurer à la librairie La Cavale et chez Sorams à Montpellier pour l'instant. Voilà.
Merci Jean-Louis Kerengeven, c'était un bonheur de découvrir ces thèmes qui vous sont chers, le sillon d'écriture, la navigation, la mer, l'arbre, la houle, le caillou, la mue des pierres, et même ce petit air qui vient d'Irlande. Quant à nous, nous retrouverons dans Jardin d'Isis chaque jeudi. Je vous donne rendez-vous à 13h15 et 19h15. À bientôt.